Télématin, Stéphane Guégan. Bonjour Stéphane Guégan.
Bonjour.
Vous avez beaucoup de casquettes, si on les donne toutes, on finira pas l'émission. Vous êtes historien, critique d'art, spécialiste du romantisme français, biographe, et puis aussi commissaire d'exposition, conservateur plutôt, dit-on, au musée d'Orsay. Vous êtes le triomphateur de cette saison picturale et d'exposition à Paris, avec cette très grande exposition Manet au musée d'Orsay, dont le succès fait qu'elle est du coup prolongée jusqu'au 17 juillet. 450 000 spectateurs déjà.
C'est ce qu'on attend, oui. Oui. Oui, c'est un beau succès. Un beau succès.
Inattendu. Souhaité, d'accord, mais souhaité, tout de même surpris.
Souhaité, non, parce que je pense que c'était le moment de revenir à Manet. C'était le moment de redonner des clés de lecture. Le succès de Monet a sans doute préparé le nôtre. Je pense qu'après Monet, le public a voulu savoir comment situer Manet, puisqu'il n'appartient pas. On ne cesse de le souligner dans l'exposition, voilà. À l'histoire de l'impressionnisme, ouais. Mais plutôt à l'héritage du romantisme.
Et puis, il y a également, peut-être aurez-vous 450 000 lecteurs, le Théophile Gautier, biographie que vous publiez chez Gallimard, Stéphane Guégan. Alors, évidemment, les deux sujets, au fond, ils ont de très nombreuses intersections, de très nombreux points communs. Théophile Gautier, Édouard Manet, par le même homme, vous, Stéphane Guégan, on connaît tous, bien sûr, leurs noms. On les situe tous plus ou moins, selon nos compétences et notre érudition, dans la chronologie et l'histoire de l'art. Et là, chacun souvenir, même un peu vague, d'un poème, d'un tableau, d'un citron, d'un œillet, d'une Aria Marcella, d'un déjeuner sur l'herbe, d'une Olympia, que sais-je. Et pourtant, la lecture de la biographie que vous consacrez justement à Théophile Gautier, Stéphane Guégan, on se rend compte que l'on savait quelques petites choses, mais plutôt de l'ordre du cliché. Également avec Édouard Manet, dont on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles qu'il est le père de l'impressionnisme et dont on se dit qu'avec Jubilation, vous essayez de déconstruire, démonter complètement là ce cliché. Comment avez-vous envisagé justement alors l'idée quand même qu'il fallait absolument revenir à quelque chose de plus vrai, de plus stable dans la définition de l'œuvre et de la vie de ces deux géants que sont Édouard Manet et Théophile Gautier, Stéphane Guégan?
D'abord parce qu'il faut toujours réviser ses classiques, redresser les erreurs, redresser les poncifs.
Et que les clichés font du mal à notre appréhension de l'histoire et de l'art?
Oui, et notamment les clichés qui se sont fixés, voire sclérosés tout au long du XXe siècle. Le XXe siècle, et on pourrait écrire cette histoire, le XXe siècle s'est construit sur le rejet d'un certain XIXe siècle, d'un XIXe siècle qui justement passe par le romantisme. Il suffit d'ailleurs de voir comment on l'enseigne, il suffit de regarder les manuels scolaires. Et puis il y a Manet. Manet, au fond, qui est de 10 ans le cadet des impressionnistes et qu'on a du mal à situer. Trop noir dans les années 60, trop espagnol, trop sexuel. Et puis dans les années 70, au fond, trop tragique encore. Alors que la peinture se décorsette, regarde les rives de la Seine, se plaît à peindre les loisirs contemporains. Manet reste trop tragique, trop romantique. Et ça, c'est Baudelaire qui le dit le premier. Et pour parler des convergences que vous mentionniez entre Gautier et Manet, la première, c'est le rejet commun des conventions classiques. Il faut revenir aussi à nos bases. Ces deux mouvements se croisent parce qu'ils n'en finissent pas de liquider tout un héritage classique.
L'exposition Manet s'appelle Manet, inventeur du moderne. Votre biographie de Théophile Gautier ne porte que le nom de Théophile Gautier. Mais vous auriez pu titrer également Théophile Gautier, inventeur du moderne.
Puisque vous m'avez bien lu, je le sais, vous avez remarqué que j'insiste beaucoup sur ce passage du romantisme au moderne. Cette conversion, on dirait d'ailleurs Gautier. Il est un de ceux, dans les années 1840, qui pense... au fond, le renouveau du romantisme. Le romantisme a besoin d'un second souffle. La première expression...
Le romantisme n'est pas une nostalgie, mais le romantisme est une façon de vision d'avenir, dit-on. Alors qu'on l'assimile souvent à cette idée de...
Bien sûr.
Le romantisme est une nostalgie.
Vous avez raison. Le romantisme de Gautier n'est plus le romantisme de Vigny et Chateaubriand qui se contenterait, au fond, d'exalter la vieille France, d'exalter les ruines, la mélancolie.
C'était mieux avant.
Non, c'est un romantisme qui cherche, au contraire... faire entrer dans son monde, dans ses images, dans ses textes, précisément la spécificité des temps modernes. On pourrait presque dire que Manet, au fond, se situe de la même manière par rapport au romantisme. Comment aller au-delà de cette spécificité romantique, de ce goût de la chose vue, de cette écriture qui se veut plus voyante, plus concrète au regard des classiques. Et Manet, il franchit un autre pas. C'est le déjeuner sur l'herbe. Et là, tout d'un coup, les femmes, les hommes deviennent réels.
Est-ce qu'il faut interpréter d'ailleurs cette démarche de Manet par un petit biais, par exemple biographique, le fait qu'il n'ait pas fait d'école de beaux-arts ?
Oui, c'est un signe fort. Et qu'il choisisse...
Pas d'académie, on va dire.
Pas d'académie. On y insiste beaucoup dans l'exposition, la fameuse salle jaune d'entrée, où l'on voit l'hommage à Delacroix que Fantin Latour expose en 1864, un portrait collectif où Manet vient, au fond, rendre hommage à Delacroix, qui vient de disparaître. Et qui voit-on là ? Baudelaire, les romantiques. C'est le tableau qui fait le lien. Et d'une certaine manière, décide de renoncer à l'école des beaux-arts, il s'inscrit aussi dans cette tradition romantique qui fait que il faut tourner le dos à l'enseignement sclérosé, à l'enseignement des néo-davidiens.
Tout sauf
les davidiens. Par exemple, le Toréador mort, qui circule beaucoup dans la presse, qui est une des œuvres phares de l'exposition. Et pour moi, un équivalent moderne au Marat de David. Même rapport direct, frontal à la mort, à la réalité contemporaine, à l'histoire en cours.
Une lumière sans concession.
À l'histoire en cours. Une lumière sans concession, une façon d'iconiser même la mort. Mais pour revenir aux convergences, Gautier Manet, il faut rappeler tout de même à nos auditeurs que c'est précisément Gautier qui lance Manet en 1861. Voilà. Premier salon, et que peut rêver un artiste ?
Manet, à l'époque, est le patron de l'Académie des Beaux-Arts.
Gautier,
à l'époque, est le patron
Gautier
de l'Académie.
Gautier préside une Société Nationale des Beaux-Arts. Voilà. Et Société Nationale des Beaux-Arts, c'est très intéressant.
Quelques années avant, le scandale du déjeuner sur l'herbe.
Exactement.
Mais à ce moment-là, Gautier défend Manet.
Gautier défend Manet. Non seulement il va le défendre dans son journalisme, mais il va faire en sorte qu'on le voit au salon. Car Gautier met un pied dans le jury du salon, à partir de 1864. En 63, Manet est exclu. En 64, il revient au salon. Il faudrait peut-être méditer ce retour au salon.
Il faut tout de même aussi peut-être remettre les choses dans l'ordre avant qu'on avance un peu plus avant. C'est quelques repères biographiques. Alors, le plus vieux, on va commencer par lui, le plus âgé, on va dire. L'aîné, c'est Théophile Gautier, né à Tarbes en 1811 et mort à Paris en 1872. Et puis, le cadet de 20 ans, Édouard Manet, né à Paris en 1832, mort à Paris en 1880. Les points communs d'une formation, sans vouloir forcément tirer à outrance les points communs, mais on va dire tout de même que c'est effectivement en plus une sorte de dualité d'entrée. On peut citer peut-être Baudelaire qui avait relevé chez Théophile Gautier une dualité, deux hommes, deux styles en un. Et on pourrait dire au fond la même chose chez Manet qui va peindre toutes sortes de figures et qui fait qu'on ne peut pas résumer Manet à une seule, comme on le fait, je sais pas, avec Van Gogh sur les tournesols. Manet, lui, va peindre des prostituées, des prêtres, des hommes, des femmes normaux, ordinaires, des batailles navales, des brasseries, des natures mortes, la place de Compiègne, les arènes espagnoles. Est-ce que c'est ce point commun-là et dont on peut trouver l'origine dans le goût du voyage très jeune ?
Oui, la diversité. Comme le dirait Blondin, mon cœur est toujours ailleurs. Il y a ça chez les romantiques, il y a cette façon d'échapper à la grisaille du quotidien, cette volonté d'aller y voir. Baudelaire dit de Gautier qu'il est celui qui a renoncé à l'idée d'un beau unique, qu'il y a chez lui une sorte de sensibilité cosmopolite. Il le dit en 59 et il le dit vraiment à dessein. C'est-à-dire que Gautier est de tous celui qui a le plus voyagé. On parle de l'Espagne.
C'est incroyable.
L'Espagne,
le Maroc,
la Belgique. La Belgique
Grèce,
est une terre exotique encore.
Oui, bien sûr.
L'Algérie, capitale. L'Égypte et Constantinople. Constantinople qui donne lieu à un des plus beaux livres de la littérature française, un de ceux de Gautier qui aurait été le plus republié. Et donc, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est de voir comment Manet, on le sait, a voyagé à travers le voyage en Espagne de Gautier avant de mettre un pied à Madrid. C'est-à-dire qu'il s'est en quelque sorte préparé. Au lieu de lire un guide touristique...
Quand Manet part en Espagne, il connaît l'existence des écrits et des voyages de Théophile Gautier sur l'Espagne.
Exactement. Et son chanteur espagnol... C'est son guide. Et son chanteur espagnol de 1861 qui suscite tant d'enthousiasme chez Gautier est pétri par cette vision d'une Espagne qui n'aurait pas rompu avec ses racines les plus primitives. Hein. C'est un chanteur, vous avez vu, viril, saisi dans l'effort, comme une sorte de Goya en surpuissance. Et donc, il est évident que Manet a cherché à convaincre la génération d'avant, comme vous le disiez, ouais. Gautier et Baudelaire, en marchant sur leur brisée. Voilà.
Alors, et bouclons la boucle, parce bouclons que du coup, ensuite, Gautier écrira sur ce chanteur espagnol peint par Manet, inspiré par les écrits de Gautier. Et Gautier dira, je raccourcis la citation, mais il parle d'une brosse vaillante, avec des couleurs très gaies. Mais alors, le coup de la brosse vaillante, c'est bien la touche de Manet.
C'est bien la touche de Manet, et c'est aussi ce qu'il... distingue du fini, du poli académique. Ouais. Hein, là encore, autre lien avec la Révolution romantique. Il suffit d'ailleurs de lire la correspondance de Baudelaire. Vous savez, les historiens de l'art ont tendance à croire que les peintres ne fréquentent que les peintres et que la peinture se réduit à des tâches. Lisez la correspondance de Baudelaire. Baudelaire dit à un tiers de Manet, il a été marqué en profondeur par le romantisme. Voilà. C'est une sorte de maladie native. Donc, s'il y a convergence entre mes deux objets, Manet et Gautier, c'est une convergence que je n'ai pas inventée.
Ah non, mais c'est clair.
C'est une convergence que j'exhume, si j'ose dire.
On sent bien que votre travail est un sérieux total, et pas ennuyeux du tout d'ailleurs, mais c'est une profusion. Cela dit, racontez-nous pourquoi, en deux petits mots, il s'en est fallu, si j'ose dire, d'un poil de pinceau que Théophile Gautier soit un peintre tout court, grand concurrent, peut-être, qui sait, de Manet. Pourquoi ? Alors, parce qu'il peint, il commence par ça d'ailleurs.
Oui, il a d'ailleurs continué à peindre et dessiner pour lui-même. C'est sans doute une de ses grandes douleurs, une de ses grandes frustrations. Il s'est formé dans un atelier à la toute fin des années 1820, en pleine révolution romantique. Hein. C'est l'époque où explose Delacroix. Tout près du lycée Charlemagne, d'ailleurs, où il a fait ses études. Et puis, il renonce à la peinture. Il y a différentes raisons à cela. J'en parle dans le livre. La principale, sans doute, c'est qu'il a un vrai don pour les lettres. Hein. Et Victor Hugo, qui est à la fois, vous savez, quelqu'un qui embrigade la jeunesse romantique à ses propres fins, mais est un éveilleur aussi, un éclaireur, quelqu'un qui sait. Hein. Il a vu Borel, il a vu Nerval, il a vu Gautier dans le même monde. Eh bien, Gautier publie... à 18 ans, 19 ans, son premier recueil de poésie.
Voilà, et puis vous avez dit effectivement le mot magique qu'il faut prononcer quand on parle de Théophile Gautier, c'est Victor Hugo qui lance...
Et le Victor Hugo des Orientales, voilà, le Victor Hugo pontifiant sur son rocher.
Et, qui lance évidemment Théophile Gautier dans la religion, on va dire, des lettres, mais plus encore plus fort dans la religion de la poésie, qui guidera toute
la poésie. La poésie insoumise,
Ah oui, bien sûr.
Irréductible, vous savez, l'utilité de l'inutile.